Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, on parle beaucoup en nos jours dans l'Église de pentecôtisme et de charismatisme. Et en effet, beaucoup de catholiques aujourd'hui s'efforcent de recevoir l'Esprit Saint, la grâce de l'Esprit Saint, par une voie nouvelle, par une voie qui en définitive nous est venue du protestantisme, car le pentecôtisme est né protestant. Et s'est répandu dans l'Église il n'y a pas beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, ce pentecôtisme dans l'Église s'est transformé en charismatisme. Et nous sommes bien obligés d'avouer que ces manifestations se répandent de plus en plus et avec l'approbation des autorités ecclésiastiques. Nous avons pu voir et entendre ces manifestations dans la réunion du Catholicen Tag en Allemagne, à Munich, au mois de novembre dernier. Tous les évêques et cardinaux allemands étaient réunis à Munich au milieu de 80 000 de leurs fidèles, et ces manifestations ont eu lieu particulièrement avant la réception du sacrement de l'Eucharistie. Manifestations qui ont vraiment quelque chose d'étrange. On peut en vérité se demander si elles sont inspirées par l'esprit véritable de Dieu ou par un autre esprit. Et à peu près à la même époque, à Graz, en Autriche, avait lieu également, sous la direction de l'évêque de Graz, des manifestations charismatiques. Et l'évêque de Graz expliquait que ces manifestations étaient désormais introduites dans l'Église parce que c'était un moyen d'attirer les jeunes dans les églises qui se vidaient, et que peut-être par là ce serait un moyen de faire revivre la vie chrétienne par cette jeunesse. Dans le même temps, à Paray-le-Monial aussi ont lieu souvent des manifestations de ce genre. Manifestations d'ailleurs qui ont également des aspects assez traditionnels. À Paray-le-Monial en particulier, on remarque qu'il y a des jeunes qui passent la nuit en adoration devant le Saint-Sacrement, qui récitent le chapelet et qui manifestent réellement un esprit de prière. Il y a donc là tout un aspect bizarre et étrange qui mélange à la fois la tradition dans l'Église et des manifestations qui sont plus étrangères à l'Église qu'habituelles dans l'Église. Que devons-nous penser à ce sujet? Devons-nous croire vraiment que c'est une voie nouvelle qui a été ouverte à l'occasion du Concile Vatican II et quelques années avant pour recevoir l'Esprit Saint? Il semble que ces manifestations nouvelles ne soient pas du tout conformes à la tradition de l'Église. D'où vient l'Esprit? Qui nous donne l'Esprit? Qui est l'Esprit? L'Esprit, c'est Dieu. Spiritus est Deus, dit saint Jean. Dieu est Esprit. Et Dieu veut que on le prie et qu'on l'adore en esprit et en vérité. Par conséquent, c'est bien plus une manifestation spirituelle qui doit montrer notre attachement à l'esprit que des manifestations sensibles, extérieures. Et puis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous dit dans l'Évangile et qui annonce aux apôtres qu'ils recevront l'Esprit Saint, qu'il leur enverra. Il leur enverra l'Esprit qui a reçu de lui l'Esprit de vérité, l'Esprit de charité, quid et meo accepiet. Je vous l'enverrai. Mitam eum ad vos. Cet esprit vient donc de notre Seigneur Jésus-Christ et du Père. Nous le disons dans le Credo. Credo in spiritum sanctum. Puis procedit a patre filioque. Qui procède du Père et du Fils. C'est cela la foi catholique. Nous croyons que l'Esprit Saint vient du Père et du Fils. Et que notre Seigneur Jésus-Christ est venu précisément sur la terre pour nous rendre son Esprit, pour nous rendre sa vie spirituelle, sa vie divine. Et quels moyens a-t-il pris? A-t-il pris ces moyens, ces manifestations que nous voyons dans le pentecôtisme et le charismatisme? Pas du tout. Il a pris le moyen des sacrements. Il a institué les sacrements pour nous communiquer son esprit. Et en particulier, nous devons insister sur cette vérité de la tradition. Notre Seigneur nous communique son esprit par le baptême. Il le dit à Nicodème dans cet entretien nocturne qu'il a eu avec Nicodème. Il lui dit, celui qui ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint n'entrera pas dans le royaume des cieux. Nous devons donc renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs ainsi également que notre Seigneur a communiqué son esprit aux apôtres. Les apôtres ont d'abord reçu le baptême de Jean et ensuite, à la Pentecôte, ont reçu le baptême de l'esprit. Et qu'ont fait les apôtres immédiatement après qu'eux-mêmes avaient reçu l'Esprit Saint? Ils ont baptisé, ils ont communiqué l'Esprit Saint à tous ceux qui avaient la foi, à tous ceux qui croyaient en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc de cette manière que l'Église, et que notre sous l'influence et sous la dictée de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, communique l'Esprit Saint aux âmes par le baptême. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint au jour de notre baptême. Il me semble que nous aurions intérêt à méditer davantage la grande réalité de notre baptême. C'est une transformation totale qui s'est accomplie dans nos âmes à l'occasion de la réception de ce sacrement. Et puis, les autres sacrements sont venus compléter cette effusion de l'Esprit Saint que nous avons reçue au jour de notre baptême. Le sacrement de confirmation que cet après-midi j'aurai la joie de donner à de nombreux enfants Le sacrement de confirmation communique aussi tous les dons du Saint-Esprit avec une grande effusion parce que nous en avons besoin pour alimenter notre vie spirituelle, pour fortifier notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Et ce n'est pas tout. Notre Seigneur a voulu que deux sacrements en particulier nous communiquent son esprit d'une manière fréquente afin d'entretenir l'effusion de son esprit en nous. Ce sont les sacrements de pénitence et le sacrement d'Eucharistie. Sacrement de pénitence qui renforce la grâce que nous avons reçue au jour de notre baptême et qui purifie nos âmes de nos péchés. Car nous ne pouvons pas penser recevoir de nombreuses grâces de l'Esprit Saint si nos âmes se trouve en état de contradiction avec l'Esprit Saint par le péché. Sa commande pénitence, par conséquent, nous restitue la vertu de l'Esprit Saint, la vertu de la grâce. Et que dire du sacrement de l'Eucharistie qui nous est donné par le Saint Sacrifice de la Messe? Car c'est dans le même instant que le sacrifice de la Messe est réalisé, sacrifice de la rédemption continué, et que le sacrement est réalisé, le sacrement de l'Eucharistie. Et cette grâce coule du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, du cœur transpercé de notre Seigneur. Le sang et l'eau qui coulent manifestent à la fois les grâces de la rédemption par l'eau qui coule de son cœur sacré. Et le sang qui coule, c'est sa vie divine qui nous est communiquée. Alors, dans la Sainte Eucharistie aussi, nous recevons à la fois la sanctification de nos âmes par l'éloignement du péché et par l'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Autant de sources de l'Esprit. Les sacrements de mariage et le sacrement de l'ordre sont des sacrements qui sanctifient la société. Le sacrement du mariage sanctifie la famille. Le sacrement de l'ordre est donné pour communiquer précisément l'Esprit Saint à toutes ces familles chrétiennes, à toutes les âmes. C'est donc encore de nouvelles occasions par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ nous donne réellement son esprit de vérité, son esprit d'amour, son esprit de charité. Et enfin, le sacrement de l'extrême-onction qui nous prépare à recevoir la véritable et définitive effusion de l'Esprit-Saint lorsque nous recevrons notre récompense au ciel. Voilà les moyens par lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous communiquer sa vie spirituelle, son propre esprit. Nous n'avons pas le droit de choisir d'autres moyens et de vouloir d'autres moyens que ceux que notre Seigneur Jésus-Christ a institués lui-même. S'il s'est donné la peine d'instituer ces moyens si simples, si beaux, si efficaces, si symboliques en même temps, nous n'avons pas le droit d'espérer que par nos simples manifestations extérieures, des gestes particuliers, nous avons le droit, en quelque sorte, de recevoir l'Esprit Saint. Il est bien à craindre que ces manifestations soient inspirées par le mauvais esprit pour tromper précisément les fidèles en leur faisant croire qu'ils reçoivent le véritable esprit de notre Seigneur, mais qu'en réalité, ce n'est pas du tout celui-là qu'ils reçoivent, mais bien un autre esprit. Alors, prenons garde de nous laisser entraîner dans ces manifestations ou dans ces désirs et détournons ceux qui, dans nos familles, à l'occasion, sont attirés par ces manifestations. Disons-leur que notre Seigneur a pris le soin de nous donner son esprit par ces sacrements. Et quel est l'effet de la descente de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint en nous? C'est d'abord de nous éloigner du péché par ces dons particuliers de force et de crainte de Dieu, et particulièrement de la crainte filiale, non point de la crainte servile. Oh, certes, la crainte servile est utile, c'est-à-dire la crainte des châtiments peut être utile pour nous maintenir dans la voie de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, à ses commandements. Mais c'est surtout la crainte filiale que nous devons cultiver. C'est celle-là que nous donne l'Esprit Saint dans son don de crainte. La crainte de nous éloigner de celui qui est notre tout, de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de l'Esprit Saint. Cette crainte devrait être suffisante et devrait être efficace pour nous éloigner de tout péché, de tout péché volontaire, quel qu'il soit, d'éloigner nos volontés de Dieu, d'éviter que nos volontés s'attachent à des biens contrairement à la volonté du bon Dieu. C'est le premier effet des dons du Saint-Esprit. Et puis, le Saint-Esprit aussi nous inspire de nous soumettre à la volonté de Dieu par les dons de conseil et par les dons de sagesse. Le don de conseil qui perfectionne la vertu de prudence. Nous avons besoin au cours de nos existences de savoir quelle est la volonté du bon Dieu pour la faire, pour la pratiquer. Ce n'est pas toujours facile. Il se trouve parfois que certaines décisions sont difficiles à prendre et qu'il est difficile de connaître la volonté du bon Dieu. Alors le Saint-Esprit nous éclaire par le don de conseil et par la vertu, par le don de sagesse. Et puis le Saint-Esprit également nous incite à la prière, à l'union à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'union à Dieu par la prière. Alors c'est le don de piété que le Saint-Esprit nous donne. Don de piété qui se manifeste particulièrement dans la vertu de religion. Les vertus de religion qui élèvent nos âmes vers Dieu. Vertu de religion qui fait partie de la vertu de justice. Car il est juste et digne que nous rendions un culte, et le culte que Dieu veut que nous lui rendions, par notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par la Sainte Messe. Dieu a voulu que nous lui rendions tout honneur et toute gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le Saint Sacrifice de la Messe, c'est ce que vous venez faire, ce que l'Église demande que nous fassions tous les dimanches, nous unir au sacrifice de notre Seigneur, c'est la plus belle prière, la plus grande prière. Alors c'est là que le Saint-Esprit nous inspire cette vertu de religion, cet esprit de piété profond, bien plus spirituel que sensible. C'est pourquoi là encore, il y a eu une erreur dans la réforme liturgique. Lorsqu'on a tant insisté sur la participation des fidèles, j'ai entendu moi-même Mgr Bonigny, celui qui a été la cheville ouvrière de la réforme liturgique, nous dire « Toute cette réforme a été faite dans le but de faire participer davantage les fidèles » à la liturgie. Mais quelle participation? Voilà ce qu'il faut se demander. Quelle participation? La participation extérieure, la participation orale, n'est pas toujours la meilleure participation. Pourquoi la participation extérieure? Pourquoi ces cérémonies? Pourquoi ces chants? Pourquoi ces prières vocales? Mais pour l'union intérieure, pour l'union spirituelle, pour la participation spirituel, surnaturel, pour unir nos âmes à Dieu. C'est pourquoi il n'est pas du tout inconcevable que les fidèles, que n'importe quel assistant au saint sacrifice de la messe, restent en silence pendant tout le saint sacrifice de la messe, n'ouvre même pas son livre de messe, je dirais, pendant le saint sacrifice de la messe. S'il se sent vraiment attiré, conquis, inspiré en quelque sorte par les sentiments que le prêtre manifeste dans son action. En entendant le prêtre faire son acte de confession, son acte de contrition, l'âme s'unit au prêtre et regrette ses péchés. En entendant le Kyrie eleison, c'est l'appel à la pitié et à la miséricorde de Dieu. En entendant la parole de l'évangile, de l'épître, c'est l'esprit de foi, c'est l'acte de foi. L'acte de foi dans le credo, dans les vérités enseignées par la Sainte Église. Et l'offertoire, l'âme s'offre avec l'hostie sur la patène, s'offre, offre sa journée, offre toute sa vie, offre sa famille, offre tous les siens à Dieu. Et ainsi les sentiments continuent à travers cette messe magnifique. C'est cela la participation véritable, c'est la participation intérieure de nos âmes avec la prière publique de l'Église. Ce n'est pas nécessairement une participation purement extérieure. Sans doute, ces participations extérieures sont très utiles, peuvent nous aider à nous unir aux prêtres. Mais le but est toujours cette union spirituelle de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. Il y a donc une erreur, en ce sens qu'on a voulu absolument que les fidèles participent de telle manière, d'une manière tellement extérieure, que cela leur devient un obstacle pour la prière intérieure, que ça devient un obstacle de l'union de leurs âmes à Dieu. Combien de personnes disent « Nous ne pouvons plus prier maintenant dans les messes modernes, dans les messes nouvelles. Nous ne pouvons plus prier. On entend toujours quelque chose, on entend une prière publique. Il y a tout le temps une manifestation extérieure qui fait que nous sommes distraits et que nous ne pouvons plus nous recueillir et vraiment nous unir au bon Dieu. C'est donc le contraire de la prière qui se réalise. Voilà aussi une des manifestations de l'Esprit Saint, l'esprit de piété, le don de piété. Et enfin, les deux derniers dons, le don d'intelligence et de science, nous invitent à la contemplation de Dieu, à travers les choses de ce monde, dans le don de science et le don d'intelligence qui pénètre et qui nous donne la lumière de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu dans toutes choses, et particulièrement dans les manifestations spirituelles et surnaturelles que le bon Dieu nous a données par la grâce, par tous les sacrements. L'âme inspirée du Saint-Esprit voit en quelque sorte la présence de Dieu partout et ainsi s'unit au bon Dieu au cours de sa vie en attendant de le voir dans la réalité, dans la vie éternelle. Voilà ce qu'est l'Esprit Saint. Et on admire vraiment comment dans l'Évangile, dans les actes des apôtres, dans toutes les lettres des apôtres, l'Esprit Saint se trouve partout. Il est manifesté partout. Et c'est pourquoi c'est une manifestation claire de la volonté du bon Dieu de sanctifier nos âmes par la présence de son Esprit, par la présence de l'Esprit de Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie qui a été remplie du Saint-Esprit, demandons-lui à notre bonne Mère du Ciel de nous aider à vivre cette vie spirituelle, cette vie intérieure, cette vie contemplative, elle qui a peu manifesté extérieurement sa prière. Quelques paroles dans l'Évangile suffisent pour nous montrer et nous découvrir un peu l'âme de la très sainte Vierge Marie. Elle méditait les paroles que notre Seigneur disait. Elle les répétait dans son cœur, dit l'Évangile. Voilà l'esprit de la très sainte Vierge Marie. Elle méditait les paroles de Jésus. Méditons nous aussi les paroles de l'Évangile. Méditons les paroles que l'Église met sur nos lèvres afin de nous unir toujours davantage à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et bien chers amis, mes bien chers frères, nous voici de nouveau réunis pour une cérémonie d'ordination. C'est toujours avec une certaine émotion que nous assistons à ces cérémonies, que nous y participons, et en particulier à cette cérémonie réalisée à la veille de la Pentecôte. S'il y a en effet une occasion pour les âmes de recevoir l'Esprit Saint, c'est bien l'ordination et l'ordination au diaconat. Vous savez, mes chers amis, deux modèles en particulier. Saint Étienne et Saint Laurent, qui ont été eux aussi remplis du Saint-Esprit. C'est l'Écriture qui le dit pour Saint Étienne. Il était rempli de l'Esprit Saint et par sa lumière, l'Esprit Saint inondait l'intelligence et l'âme de Saint-Étienne, et ainsi il affirmait avec force, avec courage, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ à l'encontre de ceux qui s'opposaient à cette divinité. Et alors il a subi le martyr, et tandis qu'il subissait son martyr, sa foi s'est comme transformée déjà en vision béatifique. Et il affirmait déjà voir notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire du Père. Modèle pour vous, mes chers amis, que l'Esprit Saint qui va descendre en vous encore plus abondamment, avec tous ses dons à l'occasion de cette ordination au diaconat, vous donne aussi cette foi profonde, cette foi vivante qu'avait saint Étienne pour que vous proclamiez à la face du monde la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, vous tournerez vos regards aussi vers ce diacre du IIIe siècle, saint Laurent. Lui aussi, rempli du Saint-Esprit, enflammé du désir de venir en aide à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans l'indigence, distribuer ses biens aux pauvres. Il était chargé de distribuer par le pape tout ce que l'Église pouvait donner à ceux qui étaient dans l'indigence. Et par là aussi, il a subi le martyr. Parce que, rempli du Saint-Esprit, il manifestait la charité de notre Seigneur devant l'égoïsme de ses bourreaux qui auraient voulu profiter des richesses de l'Église. Il a souffert le martyr horrible de la grille ardente. Mais l'ardeur de sa foi, l'ardeur de sa charité était encore plus grande que le feu qui le brûlait à l'extérieur. Grand modèle également pour vous. Modèle du détachement total. Vous aurez aussi des responsabilités plus tard, responsabilités matérielles. Ne vous attachez pas au bien de ce monde. Soyez aussi généreux pour les pauvres, sans doute, mais surtout pour les pauvres spirituels. Pour ceux qui souffrent de la faim et de la soif dans leurs âmes, pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui viendront à vous pour demander la grâce de la charité, la grâce de la rédemption par les sacrements qui descendront par vos mains, par vos paroles. Alors demandez aujourd'hui cette grâce, et nous la demandons pour vous, tous ceux qui sont ici présents, parents, amis, vos maîtres qui ont tant d'affection pour vous, demande pour vous que cet Esprit Saint descende en vous avec l'abondance de tous ses dons, des phases de vous, des diacres qui suivent les modèles que l'Église nous a donnés, Saint Étienne et Saint Laurent. Et vous avez particulièrement besoin de cet Esprit Saint aujourd'hui. Vous aurez à prêcher le règne de Dieu. Lorsqu'on prend connaissance dans les Écritures des dernières paroles de notre Seigneur aux apôtres avant de monter au ciel, et puis les premières aussi des actes des apôtres, après la descente du Saint-Esprit sur eux, on s'aperçoit que l'objet, tout l'objet de notre Seigneur Jésus-Christ, l'objet de sa révélation, l'objet de l'apostolat des apôtres, c'est le Regnum Dei, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. C'est bien ce que notre Seigneur nous a demandé dans sa prière, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'objet de notre prédication. Or, ce règne de Dieu, qui était évident, efficace pendant des siècles, siècles de chrétienté, siècles où notre Seigneur vraiment était le roi, dans les cités, dans les familles, dans les individus. Oh, certes, tout n'était pas parfait. Il y avait bien aussi et toujours le péché et les pécheurs. Mais on peut dire que le royaume de notre Seigneur était agréé par tous, par ceux qui présidaient aux destinées des cités, et par ceux qui étaient les pères de famille, les chefs de famille, par ceux-mêmes qui avaient des professions, qui consacraient leurs professions à des saints, et par les individus d'une manière générale. Les vocations en étaient une preuve, les familles chrétiennes en étaient une preuve également. Or, un dessein satanique est venu troubler ce règne de notre Seigneur. Et non seulement le troubler, mais a eu pour intention, pour but, de le détruire de fond en comble. Fond en comble. C'est bien ce que dit le pape Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus, parlant de la franc-maçonnerie. Il dit « Leur but est la destruction totale des institutions chrétiennes. Destruction totale des institutions chrétiennes. » Et en effet, patiemment, résolument, avec une malice consommée, ils arrivent peu à peu à leur but. Et l'on s'aperçoit que d'année en année, ils arrivent à détruire les institutions chrétiennes. Mais alors on s'attendrait, évidemment, à une résistance acharnée de ceux qui croient au règne de Dieu, de ceux qui croient à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas, partout des traîtres, partout des abandons, partout des compromissions. Le règne de notre Seigneur sera encore acceptable à la rigueur dans les familles, à la rigueur dans les paroisses, dans les personnes privées, mais plus extérieurement, plus dans la cité, plus dans les professions. C'est la sécularisation, c'est la laïcisation. Voilà le projet infernal de Satan. Le grand moyen d'arriver à la destruction du règne de notre Seigneur des institutions chrétiennes, c'est la laïcité et la sécularisation des États, des sociétés, et par le fait même, nécessairement, c'est une conséquence logique et comme implacable, sécularisation, laïcisation des familles. Et non seulement des familles, mais des séminaires, mais du clergé. Et voilà que dans le clergé, dans l'Église, des hommes se lèvent en faveur de la sécularisation. Des chrétiens comme Maritain estiment que la sécularisation est une évolution nécessaire et comme un progrès qui doit arriver avec la science, avec le développement des sciences humaines et sociologiques. Et puis ce sera Teilhard de Chardin, un prêtre, qui fera aussi de cette laïcisation, de cette sécularisation, l'objet de ces considérations, qui seront suivies dans les séminaires, par des prêtres, par des professeurs de séminaires. Alors à quoi peut-on s'attendre si même ceux qui desservent l'autel, ceux qui desservent notre Seigneur, ceux qui ont été ordonnés pour le règne de Dieu, pour le règne de notre Seigneur, sont aussi partisans de la destruction du règne de notre Seigneur dans la société, comment peuvent-ils être encore des prêtres? On ira plus loin. Ce ne sont pas seulement des prêtres. Ce ne sont pas seulement des individus qui seront en faveur de la sécularisation et de la laïcisation, mais c'est un concile. Oui, le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, par son décret de la liberté religieuse, instaure pratiquement la laïcisation et admet officiellement les États laïcs et les États sécularisés. Que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans la société, qu'il règne à la rigueur encore dans les âmes, dans les individus, dans les familles, dans les paroisses, mais plus dans la société. Cela n'est plus possible, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le règne de notre Seigneur dans la société n'est plus possible. Ce n'est pas ce que disait le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle magnifique encyclique. Nous devrions la lire et la relire souvent pour voir quel est notre devoir, le devoir des prêtres, en faveur du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons maintenant, à l'instigation de ce concile et de ce décret de la liberté religieuse, la déchristianisation de toutes les sociétés catholiques. Et cela accompli, non seulement avec l'accord, mais avec l'approbation et à l'instigation de Rome. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est un crime contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et précisément, toutes les réformes qui ont été faites après le Concile ont été faites dans ce sens, dans le sens
d'une sécularisation et d'une laïcisation de la société catholique. La nouvelle liturgie, la nouvelle messe, n'est plus celle qui exprime la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que la vraie messe, la messe de toujours, exprimait cette royauté sociale de notre Seigneur, cette adoration de la société chrétienne tout entière, de tous ceux qui en font partie, de ceux qui ont des responsabilités dans la société, tout cela adorait notre Seigneur à genoux. Adorer notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie et lui demander pardon pour leurs péchés, lui demander la grâce de la rédemption de leurs péchés, l'application du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur leurs âmes. Et cela, toute la société réunie autour de l'autel, adorait Jésus, le reconnaissait comme roi. Il règne par le bois de sa croix, regna vitaligno Deus. Il règne par le bois de sa croix et tout le monde le reconnaît. Cette transformation de la messe en une espèce de réunion communautaire où l'on partage un pain qui signifie la communauté et qui rappelle simplement le souvenir de notre Seigneur, ce n'est plus la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était l'expression la plus belle, la plus sacrée, la plus divine de toute la société chrétienne. C'est pourquoi de magnifiques églises ont été construites par nos ancêtres pour signifier cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sur tous les individus, ces flèches qui s'élancent au milieu de nos villages, toutes les maisons regroupées autour de ce clocher, autour de cette église, signifier précisément la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. On a voulu maintenant faire des salles polyvalentes qui servent à n'importe quoi, qui n'ont plus de signification, qui ont même parfois des formes désagréables, horribles. Ce n'est plus la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que vous aurez à prêcher. Vous êtes consacrés pour cela. Et vous êtes fait diacre dans la Sainte Messe de toujours, grâce au sacrifice de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez fait diacre comme les diacres ont été faits depuis le début de l'Église. La cérémonie que nous allons faire est celle de toujours. Vous pouvez donc avoir cette conviction, je suis diacre comme l'étaient Saint Étienne, Saint Laurent et tous ceux qui ont été ordonnés diacres avec eux et après eux. Alors que vous ayez en vous cette foi, ce feu de l'Esprit-Saint qui illumine vos esprits, qui vous donne une charité profonde, une charité parfaite, mais avant tout, ayant les regards jetés sur notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas seulement sur le prochain, on aime son prochain que pour Dieu, et non pas pour lui-même, et non pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu, pour notre Seigneur. Pour que notre Seigneur règne en lui et pour que notre prochain se destine à lui. Voilà le but de notre charité, voilà le but de l'Esprit-Saint qui descend en vous. Demandez à la très Sainte Vierge Marie, mes chers amis, à notre bonne Mère du Ciel, elle qui est remplie du Saint-Esprit, par laquelle cette grâce va vous être donnée, car nous ne recevons aucune grâce sinon par la médiation de la très Sainte Vierge Marie. C'est donc par elle que vous allez recevoir cette grâce de l'Esprit-Saint, grâce du diaconat. Demandez-lui qu'elle vous la garde, qu'elle vous la donne en abondance et qu'elle vous la garde tout au cours de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers enfants, vous qui allez être confirmés dans quelques instants, c'est à vous d'abord que j'adresserai quelques mots. Pour vous rappeler qu'on ne reçoit le sacrement de confirmation qu'une seule fois dans sa vie. Tandis qu'on reçoit le sacrement de pénitence, le sacrement de l'Eucharistie, souvent, c'est conseillé par l'Église de se confesser fréquemment et de recevoir souvent la Sainte Eucharistie. Mais sacrement de confirmation n'est reçu qu'une seule fois dans sa vie. Il marque nos âmes d'un caractère, pour toujours. Et vous allez voir, au cours de la cérémonie, ce que signifie ce sacrement qui a été institué par Dieu lui-même, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. C'est donc un sacrement très important. L'évêque va d'abord étendre ses mains sur vous, en priant, demandant à Dieu, de faire descendre dans vos âmes tous les dons du Saint-Esprit. Et l'évêque va les nommer, ces dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit. Et vous allez répondre avec la chorale, avec l'assemblée, Amen, Amen, Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Oui, que le Saint-Esprit vienne dans mon cœur, dans mon âme, qu'il remplisse mon âme, pour que je demeure toujours bon chrétien, bonne chrétienne, que je garde ma foi, la foi que j'ai reçue de mes parents, que je garde la grâce du baptême que mes parents m'ont fait donner lorsque j'étais petit. Et puis ensuite, vous allez vous approcher de l'évêque avec vos parrains et marraines qui vont mettre leur main droite sur votre épaule droite en signe de participation aussi, de responsabilité dans le sacrement de confirmation que vous allez recevoir. Et c'est à ce moment-là, quand l'évêque va signer vos fronts du signe de la croix avec le Saint-Crème consacré par l'évêque le jeudi saint, et que l'évêque, mettant sa main sur votre tête, en même temps va prononcer les paroles du sacrement de confirmation, à ce moment-là précis, le Saint-Esprit descend en vous. Le Saint-Esprit n'est pas visible. Vous avez bien une âme, elle n'est pas visible non plus. Mais vous croyez bien que vous avez une âme. Eh bien, nous devons croire aussi au Saint-Esprit. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit de nos yeux, mais nous en voyons les effets. Et le Saint-Esprit va vraiment descendre dans vos âmes avec tous ses dons pour faire de vous des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Des enfants attachés à leur foi. Vous connaissez votre credo. Vous connaissez suffisamment votre catéchisme pour savoir ce que c'est que la foi chrétienne. Vous voyez comment vos parents pratiquent la foi chrétienne dans votre famille. Eh bien, il faut demeurer chrétien, garder les bonnes traditions chrétiennes de votre famille et de vos cités et de votre pays. La Suisse, dans les cantons catholiques en particulier, a toujours montré l'exemple d'un pays très attaché à sa foi. Autrefois, il y a eu des martyrs pour garder la foi catholique. Si la Suisse a encore gardé des cantons profondément catholiques, c'est bien parce que vos ancêtres ont lutté et sont morts pour défendre leur foi qui était menacée. Alors, vous devez être les fils de ceux qui ont manifesté leur foi, témoins de leur foi, et qui ont transmis cette foi catholique à leurs descendants. Nous admirions, hélas, aujourd'hui, bien des choses sont changées, mais nous admirions autrefois combien il y avait de vocations dans les bonnes familles chrétiennes, valaisannes et le canton de Fribourg, par exemple, ces cantons profondément catholiques. Des vocations dans presque toutes les familles. Presque toutes les familles pouvaient s'honorer d'avoir ou un prêtre ou un religieux missionnaire ou une religieuse dans la famille. Ce qui prouvait justement la profondeur de la foi dans ces familles chrétiennes. Et alors voici que la crise de l'Église est venue. Et maintenant c'est à vous, mes bien chers parrains et marraines et bien chers parents que je m'adresse surtout. Voici que la crise est venue et que s'est abattu sur la Suisse comme partout dans le monde entier, dans l'Église catholique, une crise insoupçonnée, inimaginable, inconcevable il y a 20 ans ou 30 ans. Et alors, on s'aperçoit que les familles chrétiennes sont en train d'être inoculées par un véritable virus. On ne compte plus les ménages désunis, les enfants abandonnés, une mauvaise éducation, la drogue dans les écoles, la drogue partout, la dissolution de la famille chrétienne, la disparition des vocations, plus de vocations sacerdotales, plus de vocations religieuses. C'est un vent qui souffle sur l'Église tout entière, un vent desséchant, un vent qui désorganise absolument les familles chrétiennes. Et cela, c'est partout la même chose. Je reviens d'un long voyage aux États-Unis ou au Canada, eh bien, la situation est la même. Mais la situation est la même aussi dans nos groupes traditionnels. C'est merveilleux, je vous assure, c'est merveilleux. Je n'exagère pas, mon terme n'est pas exagéré. De voir l'Église continuer dans les milieux traditionnels, avec les mêmes familles qu'autrefois. Familles avec de nombreux enfants, ne se limitant pas à un enfant, deux enfants. Mais l'on voit cinq enfants, six enfants, dix enfants dans les familles, nos milieux qui regorgent d'enfants, de bébés qui sont dans les bras. C'est l'avenir, l'avenir de l'Église, là. Et une joie familiale, un bonheur familial qui se reflète sur les visages des parents heureux d'avoir de belles familles chrétiennes. Et en même temps, la fraternité qui se manifeste dans ces familles, c'est comme une grande famille chrétienne, où l'on se retrouve dans la même foi, les mêmes habitudes qu'autrefois, le même respect de Dieu, le même respect de l'Eucharistie, le même attachement au Saint Sacrifice de la Messe, à la Sainte Communion, le respect des prêtres et les vocations. Vocation de prêtres, vocation de religieuses, partout dans nos milieux traditionnels. Partout, partout. C'est là que se trouve l'Église. Vous représentez vraiment l'Église. Soyez-en persuadés. Parce que vous avez des familles chrétiennes, parce qu'il y a dans vos familles chrétiennes une source de foi surnaturelle, de grâce, de bénédiction du bon Dieu qui est manifeste, manifeste. Alors c'est un grand espoir, je dirais c'est le seul espoir, je n'en vois pas d'autre. S'il n'y a plus de familles chrétiennes dans l'Église catholique, il n'y a plus d'Église catholique. Et s'il n'y a plus de famille chrétienne, il n'y a plus de vocation de vrais prêtres, de vraies vocations sacerdotales, de vraies vocations religieuses, c'est la fin de l'Église. C'est donc vous, chers parents chrétiens, qui êtes vraiment à la source de l'Église. Et nous vous en félicitons, continuez de grâce, continuez. Ayez à cœur de donner à vos enfants la formation que vous avez reçue vous-même. Cette formation profondément chrétienne, profondément catholique, attaché à l'Église, au souverain pontife, aux évêques en général. Mais malheureusement, nous sommes bien obligés de constater que ceux qui devraient garder la foi et nous aider à vivre cette vie catholique, cette vie chrétienne, au contraire, ce sont eux malheureusement qui aident à la détruire. Ces écoles qui étaient catholiques, qui formaient vraiment des enfants catholiques, et voici maintenant qu'ils les détruisent, détruisent la foi des enfants. Les enfants perdent la foi dans nos écoles catholiques. Invraisemblable, mais c'est comme cela. Alors nous devons maintenir absolument cette belle tradition de l'Église catholique, cette belle tradition chrétienne. C'est vraiment une bénédiction de Dieu de voir tous ces groupes fidèles à la tradition, fidèles à l'Église, heureux de représenter vraiment tout ce que l'Église a donné autrefois de vertus chrétiennes, de foi catholique et de charité chrétienne entre les familles. Demandons, eh bien, chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de donner en abondance les dons du Saint-Esprit à ces enfants qui vont recevoir le sacrement de confirmation, car toute grâce passe par la Très Sainte Vierge Marie. Elle est la médiatrice de toute grâce. Par conséquent, la grâce du sacrement de confirmation qui va descendre sur vos enfants viendra par la Vierge Marie. Alors demandons-lui de se montrer généreuse dans les dons du Saint-Esprit dont elle a été remplie. C'est par elle que les apôtres qui l'entouraient ont reçu le Saint-Esprit par la Vierge Marie. Alors aujourd'hui aussi, vos enfants vont recevoir par Marie cette grâce. Alors demandez à la Vierge Marie de vous aider à garder et à faire profiter vos enfants et vos filleuls de cette grâce du sacrement de confirmation, afin qu'ils demeurent aussi pour toute leur vie des témoins, témoins de la foi catholique, témoins de notre Seigneur, témoins de l'Église.